journal présenté par Tara Schlegel. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Confidence de fin de mandat, le président François Hollande signe un livre d'entretien, 600 pages et une interview dans l'Obs. Nous verrons quel bilan, quel regret, quelle perspective trace le chef de l'État, qui n'est pas encore candidat à sa succession à l'Élysée, mais c'est tout comme analyse de Stéphane Robert. Le ministre de l'Intérieur veut rassurer les policiers, il trace une nouvelle feuille de route suivie de Sophie Delpont. La fin du diesel en France, c'est un souhait émis par une mission parlementaire dirigée par l'ancienne ministre Delphine Bateau. Nous y revenons avec Hakim Kasmi. Et puis à l'étranger, nous verrons que la Commission européenne est chargée d'écrire un projet sur les transactions financières, ou plus exactement la taxe sur les transactions financières. Ce sera au mieux en 2018. L'Irak demande aux soldats turcs de quitter son territoire, refus catégorique d'Ankara. Et puis nous serons en Corée du Nord, où près de 4000 Sud-Coréens ont disparu au cours des dernières décennies. Les familles des Coréens du Sud accusent le gouvernement de Séoul d'inaction. Reportage de Frédéric Ojardias. Le président Hollande est quasiment en campagne, il ne s'en cache même plus. Sorte coup sur coup un livre de 600 pages, synthèse d'entretiens accordés tout au long du quinquennat à deux journalistes du Monde, intitulé « Un président ne devrait pas dire ça ». Y sont égrenées plusieurs confidences. Sur Notre-Dame-des-Landes par exemple, le projet ne verra pas le jour, pronostique ainsi le chef de l'État, ou sur les Verts qu'il traite de cyniques et d'emmerdeurs, fermez les guillemets. Et puis il y a cette longue interview accordée à l'Observateur. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir. Soir tard.
C'est là encore un regard rétrospectif sur son action à l'Élysée. Ça lui permet de se débarrasser de cette phase toujours complexe qui est celle du bilan, vient de dire Jean-Christophe Cambadélis, le patron des socialistes. Et ça colle bien effectivement à l'exercice auquel se livre le président François Hollande.
Oui, plutôt que de laisser ça aux autres, il préfère dresser son propre inventaire, François Hollande, ce qui lui permet de dire « Regardez ce que j'ai fait, c'est pas si mal que ça ». Il fait le constat que la crise financière est maîtrisée, qu'il n'y a pas d'inflation, que les taux d'intérêt sont au plus bas. Bon d'accord, certes. Le chômage est toujours très élevé, mais c'est en train de repartir, nous dit-il. Et puis ça prend du temps, ça va venir. Et puis le président égrène tout ce qu'il a fait durant ce quinquennat. Les créations d'emplois dans l'éducation, le compte pénibilité, l'accord sur le climat, le mariage pour tous. Bref, nous dit-il, il a mené une politique de gauche. Je suis de gauche, même revendique-t-il dans cette interview au magazine L'Obs. Ah oui alors, oui, la déchéance de nationalité, oui. Ça, il reconnaît que ça n'est pas vraiment de gauche. Et il regrette. Enfin, il regrette pas de l'avoir proposé, mais de ne pas avoir réussi à faire l'unité nationale autour de cette question. Il essaie aussi de justifier la politique de l'offre par la nécessité de redonner des marges de manœuvre aux entreprises. Et il affirme enfin que la loi El Khomri sera bénéfique aux salariés. Bref, avec moi, c'est pas le paradis, mais c'est pas l'enfer non plus, nous semble-t-il nous dire. Et puis vous allez voir, ajoute-t-il, si la droite revient, elle va défaire tout ce qu'il a fait. Parce que son programme commun à la droite, c'est, je cite, la remise en cause du modèle social français et la suppression des acquis. Vous l'avez compris, il écrit lui-même sa propre histoire et agite l'épouvantail de l'alternance pour essayer de créer des conditions d'une nouvelle candidature. Mais la question est-il encore audible, François Hollande ? Y a-t-il encore quelqu'un qui l'écoute ? Il devrait peut-être aussi se demander si cette logorée incessante dont il nous abreuve par journalistes et par médias interposés n'a pas quelque chose de contre-productif dans l'opinion.
Analyse de Stéphane Robert. A noté cette réaction de l'USM, syndicat majoritaire chez les magistrats, qui se dit atterré et consterné par les confidences de François Hollande sur la justice dans le livre publié par Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Ce n'est pas une engeance facile, la magistrature, dit ainsi le président. On peut être lynché. Ailleurs, il s'épanche également. C'est une institution de lâcheté. Tous ces procureurs, tous ces magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique. L'USM demande donc à François Hollande de retirer ses propos. Il y a le bilan et puis il y a l'action. Le ministre de l'Intérieur délivre pour la dernière fois du quinquennat leur feuille de route aux forces de l'ordre. Bernard Cazeneuve a réuni des centaines de fonctionnaires à l'école militaire aujourd'hui pour l'occasion. Des fonctionnaires de police encore traumatisés par l'agression de quatre agents à Viry-Châtillon. C'était le week-end dernier. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Alors vous êtes effectivement à l'école militaire. Le patron de la place Beauvau a-t-il pu rassurer ses troupes, Sophie ?
Alors ce soir, pas d'annonce fracassante, mais un bilan. Il a tout d'abord rendu hommage à l'engagement, à la détermination des forces de l'ordre au quotidien et lors des attentats terroristes. Face aux critiques sur les manques d'effectifs, Bernard Cazeneuve rappelle quelques chiffres.
Il y avait 488 policiers qui sortaient des écoles de police en 2012, 488. Cette année, c'est plus de 4600 qui sortent des écoles, soit 10 fois plus.
Sauf qu'il y a donc en parallèle aussi des départs à la retraite qui ne sont pas forcément compensés à la hauteur de la perte d'effectifs. En tout, depuis 2007, malgré le recrutement en cours de 9000 policiers et gendarmes supplémentaires, on n'a toujours pas compensé la perte de 13000 agents. Il faudra donc encore faire des efforts en attendant que les nouvelles recrues soient formées, alors que le terrorisme mobilise encore les troupes et épuise les effectifs.
Plus de 2000 Français ou résidents habituellement en France sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans des filières de recrutement djihadistes. 700 d'entre eux sont actuellement présents sur le théâtre des opérations en Syrie et en Irak, parmi lesquels 270 femmes et 17 mineurs combattants. En outre, environ 190 individus sont actuellement en transit dans des pays tiers et environ 200 sont d'ores et déjà revenus en France. Et comme l'an dernier, je me vois dans l'obligation de vous demander de maintenir votre mobilisation à un niveau maximal, avec toutes celles et ceux que vous dirigez, et quel que soit le point du territoire où vous servez.
Bernard Cazeneuve qui rappelle aussi que 4000 perquisitions administratives ont eu lieu pendant l'état d'urgence, alors que près de 90 personnes sont toujours assignées à résidence.
Sophie Delpont avec Clémence Bonfils pour les moyens techniques et je renvoie les auditeurs au dossier, Sophie, que vous signez sur France Culture, dossier sur les effectifs de la police en France à découvrir sur notre site franceculture.fr. De l'exemplarité en politique, c'était aussi l'un des engagements du quinquennat Hollande. Et pourtant, voilà un nouveau ministre sur la sellette, Jean-Michel Baillet, accusé hier par la députée écologiste Isabelle Attard de violence envers sa collaboratrice. C'était en 2002, la collaboratrice qui, à l'époque, avait porté plainte contre le président du Parti radical de gauche. Jean-Michel Baillet, aujourd'hui ministre de l'aménagement du territoire, a répliqué dans l'hémicycle hier que l'affaire avait été classée sans suite. Bonsoir Armelle Balogog.
Bonsoir.
En réalité, c'est un peu plus compliqué.
Et oui, en effet, parce que si l'affaire a bien été classée, les faits n'en sont pas moins marquants pour la députée Isabelle Attard. Ce qui la choque notamment, outre les accusations de coups et de séquestration, c'est une mystérieuse transaction entre Jean-Michel Baillet et son ancienne attachée parlementaire. Une transaction faite sous la foi du secret quelques jours avant le retrait de sa plainte. La députée alors accuse le ministre de l'aménagement du territoire d'avoir acheté le silence de sa victime et elle s'interroge sur le plan moral, à savoir est-ce que quelqu'un contre qui on a porté plainte peut être nommé ministre. À cela s'ajoute la colère du collectif Oser le féminisme selon sa porte-parole Claire Sercombe. Une telle plainte devrait nécessairement donner lieu à une enquête judiciaire et donc ne devrait pas pouvoir être retirée.
Nous, ce qu'on réclame, c'est que la plainte ne puisse pas être retirée. C'est notamment déjà le cas dans le cadre des violences conjugales. Depuis la loi du 4 août 2014, une femme ne peut plus retirer la plainte pour violence conjugale parce que la justice a pris conscience de ce qui se passe derrière. Ce sont les pressions, c'est la peur. Quitte à ce qu'un non-lieu soit présenté, il faut vraiment que la justice s'empare de ce phénomène puisqu'il n'y a que comme ça qu'on pourra faire bouger les choses et protéger également le mieux possible les victimes.
Et précisons que dans cette affaire, selon le journal BuzzFeed, qui a mené l'enquête en mars dernier, le ministre Jean-Michel Baillet n'a jamais nié les faits qui lui sont reprochés. Il n'a jamais porté plainte pour diffamation depuis la première révélation de l'affaire. Seule plainte en 2007 contre le journal François, mais seulement pour atteinte à la vie privée.
Merci Armelle Balogog. En bref, ce soutien massif de l'UDI en faveur d'Alain Juppé, 600 centristes et leur président Jean-Christophe Lagarde ont fait leur choix et écarté Nicolas Sarkozy. Ils voteront donc lors de la primaire à droite pour le maire de Bordeaux. Un mot encore de politique avec cette mésaventure survenue à José Bové. Le député européen a été refoulé au Canada, interdit d'entrée en raison de ses démêlés avec la justice française. On peut rappeler que l'élu vert a été condamné en 99, en 2008 pour le démontage d'un McDo et pour l'arrachage de maïs OGM. Condamnation qui ne date donc pas d'hier et qui ne lui ont pas toujours valu d'être expulsé du Canada. Voilà ce qui étonne donc José Bové.
Depuis, je me suis rendu à plusieurs reprises au Canada. Et à aucun moment, je n'ai eu cette interdiction. Alors, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. C'est assez curieux, puisque ça n'a pas beaucoup de logique, puisque d'autres Français qui sont députés, même maintenant candidats à la présidence de la République, pensent à M. Alain Juppé, lui a été condamné, et pendant sa condamnation, il a passé un an au Québec. Donc, je me dis, c'est assez bizarre. Donc, il doit y avoir une autre raison. Le Premier ministre, M. Valls, arrive aujourd'hui même au Canada pour se féliciter de la négociation sur le traité de libre-échange UE-Canada. Et j'ai l'impression qu'on ne veut pas voir un seul cheveu dépassé et qu'il faut que les choses puissent se faire sans que personne puisse contester cet accord de libre-échange qui est complètement catastrophique.
On ne pouvait rêver mieux, presque José Bové, pour parler effectivement de votre passage au Canada où vous deviez tenir quelques réunions publiques.
Ah, écoutez, voilà. Si vous voulez faire de la publicité aux réseaux internationaux qui luttent contre les accords de libre-échange, ils n'auraient pas fait mieux que ce qu'ils viennent de faire. Les marchandises doivent circuler, mais pas les personnes et surtout pas celles qui s'opposent à la signature de cet accord.
L'eurodéputé José Bové avec Véronique Rebérotte. La TTF, la taxation sur les transactions financières, verra-t-elle enfin le jour? La Commission européenne est chargée par 10 pays de rédiger un texte d'ici la fin de l'année, mais pour une entrée en vigueur au plus tôt en 2018. Dominique Plion est porte-parole d'ATTAC qui a toujours soutenu ce projet. La taxe pourrait rapporter 22 milliards d'euros.
Évidemment, nous nous réjouissons que le projet de taxation des transactions financières ait fait son chemin et soit aujourd'hui considéré comme une mesure utile et qui peut être mis en œuvre à l'échelle européenne. Mais, d'après les informations dont nous disposons quant aux conclusions du sommet qui vient de se tenir à Bruxelles, nous avons le sentiment d'un verre à moitié vide et à moitié plein. Si on est optimiste, ce qui n'est pas tout à fait notre cas, on peut se fier aux déclarations de M. Moscovici qui indique que les négociateurs se seraient mis d'accord sur le cœur du projet de taxation des transactions financières. Mais la partie du verre à moitié vide, qui nous paraît malheureusement plus importante, c'est qu'on a reporté à nouveau cette décision au motif qu'il faudrait continuer les négociations, au motif qu'il faudrait faire des études d'impact de la taxe. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Attendre encore plus, ça veut dire laisser du temps notamment aux lobbies et particulièrement les grandes banques françaises pour continuer de vider de son sens cette mesure et de faire une taxation des transactions financières à minima. Donc nous sommes plutôt inquiets et pour le moment pas du tout convaincus que ce soit une décision politique importante avec une taxe ambitieuse.
Voilà des propos recueillis par Marc Van Roet. Pourra-t-on se défaire un jour du lobby automobile, cette fois qui promeut le diesel en France? Une mission parlementaire s'est penchée sur le scandale Volkswagen. Elle livre un rapport présenté par l'ancienne ministre de l'écologie, Delphine Bateau. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Tara.
120 propositions pour rompre avec la voiture polluante, ça paraît très ambitieux.
Oui, Delphine Bateau propose une véritable remise à plat de la législation, rien que ça. Si la députée socialiste salue la réforme des tests d'homologation des véhicules entrés en vigueur au début de l'année, des tests qui, rappelons-le, étaient bien loin des conditions réelles de circulation, eh bien, elle propose une norme, par exemple, unique pour le diesel et l'essence en intégrant tous les types de polluants. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, aujourd'hui pour le CO2, pour la norme Euro. L'élu propose aussi la création d'une agence de contrôle de conformité des véhicules en circulation, avec un contrôle indépendant et aléatoire des émissions polluantes. Un contrôle qui serait assuré par un organisme indépendant du type, par exemple, du BEA. Le BEA, c'est le Bureau d'enquête accident pour l'aviation civile. Delphine Bateau, qui défend aussi la suppression d'ici 5 ans des avantages fiscaux du diesel, y compris pour les véhicules de flotte des entreprises, des propositions qui interviennent alors que la France a le plus grand parc européen de véhicules diesel. Alors même si la tendance commence à s'inverser, il représente encore tout de même 60% des voitures en France. Une révolution qui devra aussi passer par une massification de la voiture électrique et d'une véritable politique sur la mobilité par rapport aux véhicules, avec le développement par exemple de l'autopartage et de la voiture connectée pour une meilleure utilisation de la voiture. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, eh bien 80% des voitures sont uniquement utilisés pour les trajets travail-domicile. Enfin, malgré des bonus très généreux pouvant aller jusqu'à 10 000 euros, il faut savoir que la voiture électrique ne représente aujourd'hui que 1% des ventes en France.
Merci beaucoup Hakim Kasmi à noter cette réaction du syndicat FO chez PSA qui dit que 18 000 emplois seraient menacés par cette chasse au diesel à l'échelle européenne. À l'étranger, la guerre en Syrie, 25 nouvelles victimes au moins, victimes des bombardements à Alep cet après-midi et une réunion internationale annoncée pour samedi prochain à Lausanne, en présence de Sergueï Lavrov, le russe, et de l'américain John Kerry. Et puis, à noter cette poussée de fièvre entre la Turquie et l'Irak. Ankara réaffirmait hier qu'il était hors de question que les Turcs quittent l'Irak avant la prise de Mossoul, ce qui ne convient pas du tout au gouvernement irakien. Éric Biegala.
Oui, Tara, le ton est effectivement monté, et monté très haut, notamment du côté d'Ankara, où le président Recep Tayyip Erdogan s'est, pour ainsi dire, complètement lâché hier, en joignant le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi de rester à sa place. Dans une intervention télévisée au ton proche de l'insulte, le chef de l'État turc a par ailleurs considéré que le chef de l'exécutif irakien n'était pas, je cite, au même niveau que lui et qu'Al-Abadi pouvait bien vociférer depuis l'Irak, je cite toujours, lui-même n'en avait que faire, et Erdogan de marteler que l'armée turque n'avait pas à prendre ses consignes auprès de l'État irakien. Sauf que le problème se trouve justement dans la présence dans le nord de l'Irak d'une force militaire turque, une force difficile à dénombrer mais qui compterait de 2000 à 5000 hommes selon la presse d'Ankara, une force dont les Irakiens ne veulent pas et à qui le gouvernement de Bagdad a déjà demandé de quitter le territoire à de multiples reprises. Pour la Turquie, au contraire, cette force censée former des combattants sunnites irakiens au combat contre l'État islamique, mais manifestement bien trop importante pour se limiter à ça, cette force doit participer à la bataille de Mossoul qui se profile et où Ankara aimerait bien peser. L'une des équations les plus difficiles dans la perspective de cette bataille, c'est bien de savoir qui dirigera effectivement l'assaut et surtout qui occupera le terrain de la première ville sunnite d'Irak une fois celle-ci reconquise. Logiquement, ce devrait être l'armée irakienne, mais celle-ci semble beaucoup trop chiite pour Ankara.
Merci beaucoup Eric Biegala. Le Burundi veut quitter la Cour pénale internationale. Ce serait une première. Les députés burundais ont voté pour un tel retrait. Le pays est entré depuis 2015 dans un cycle de violence. Il n'a visiblement pas envie que la justice internationale s'en mêle de trop près. David Ravier.
Oui, c'est un peu compliqué parce que ce retrait permettrait au Burundi de compliquer la tâche de la Cour pénale internationale. Depuis plusieurs mois, les Nations Unies et les ACPI mènent une enquête sur les violences qui ont tué 450 personnes au Burundi l'année dernière lors de la réélection du président Nkurunziza. Pour l'instant, une dizaine de personnes, dont le numéro 2 du gouvernement, sont soupçonnées d'avoir joué un rôle dans les meurtres, les viols et les actes de torture qui ont lieu dans le pays et qui peuvent être assimilés à des crimes contre l'humanité. En sortant de la liste des pays membres, le Burundi et ses dirigeants se mettent à l'abri de la Cour pénale internationale puisqu'elle ne peut pas mener d'enquête sur un pays qui n'en fait pas partie. La seule juridiction qui peut aider la CPI à terminer cette investigation, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais là encore, la tâche sera aussi compliquée puisque les enquêteurs indépendants de l'ONU n'ont plus le droit de rentrer sur le territoire burundais depuis qu'ils ont rendu leur rapport sur la situation du pays. Le texte voté par le Parlement burundais doit encore être signé par le président Nkurunziza pour être promulgué. À partir de ce moment-là, le pays devra attendre un an pour ne plus être membre de la Cour pénale internationale et peut-être échapper aux sanctions.
David Ravier, on part pour finir en Corée du Nord où plus de 3800 ressortissants sud-coréens ont été enlevés depuis la fin de la guerre. 516 n'ont jamais été libérés et les familles accusent leur gouvernement d'inaction. Elles tentent de rapatrier leurs proches par leurs propres moyens. Reportage à Séoul, Frédéric Ojardias.
Le 29 avril 1970, à 2h du matin, alors que notre bateau de pêche naviguait près de l'île de Baekne-yongdo, nous avons été arraisonnés et enlevés par des militaires nord-coréens.
Lee Jae-geun a 78 ans, il en avait 32 quand il a été kidnappé par la Corée du Nord. Aux côtés de plusieurs autres sud-coréens enlevés, le régime l'a ensuite envoyé dans une école qui formait des espions.
Je suis resté dans cette école pendant 3 ans et 8 mois. Tout ce que j'y ai appris, c'est comment me battre, enlever des gens, ce genre de choses. Quand j'ai été renvoyé vivre une vie normale, les Nord-Coréens m'ont dit que si jamais je révélais que j'avais été kidnappé et formé dans cette école, je serais exécuté. Ils m'ont ordonné de dire que j'étais venu au Nord de mon plein gré parce que j'aimais le grand leader Kim Il-sung. Et j'ai ensuite vécu dans la société nord-coréenne. Si vous saviez comme c'était difficile, comme nous avons souffert de la faim.
Au nord, Lee Jae-geun s'est remarié. Il a eu un fils. En 2000, alors que la famine ravageait le pays, il a réussi à s'enfuir en Chine, puis en Corée du Sud avec toute sa famille. Choi Seong-yong, 64 ans, est le président de l'Union des familles de victimes d'enlèvement. Son père, pêcheur lui aussi, a été kidnappé par le nord il y a 50 ans. Son association tente de retrouver la trace de personnes enlevées. Choi Seong-yong a même réussi à retrouver et à ramener 8 victimes.
J'ai recueilli des témoignages de Nord-Coréens. Après avoir réuni suffisamment d'informations sur certaines personnes enlevées, comme par exemple l'endroit où ils vivent, j'ai envoyé secrètement en Corée du Nord des intermédiaires pour aller les sauver. Je donnais à ces passeurs une somme initiale d'un millier d'euros, mais je les payais plus s'ils réussissaient à faire revenir des personnes enlevées.
Choi Seong-yong est un personnage ambigu. Ses méthodes sont dangereuses et controversées. Ses passeurs risquent de sévères punitions s'ils sont arrêtés par les autorités nord-coréennes. Et surtout, certains des Sud-Coréens rapatriés ont déclaré avoir été piégés.
Rapatrier les personnes enlevées est difficile. Je dois leur écrire de nombreuses lettres, je dois les rassurer. C'est parfois délicat. Leur passage au sud nécessite de les faire d'abord transiter par la Chine. Mais une fois en Chine, certains m'ont soudainement demandé de les laisser rentrer en Corée du Nord. C'est parce qu'ils y ont une famille et qu'ils ont passé plus d'années avec elle plutôt qu'avec leur famille au sud. Mais même s'ils me supplient de les renvoyer au nord, je refuse. J'ai ainsi parfois rapatrié de force certains Sud-Coréens enlevés. C'est parce que c'est mon devoir de les faire revenir, quel qu'en soit le prix.
Choi Song-yong accuse son gouvernement d'inaction. Celui-ci répond qu'il fait tout son possible pour obtenir du Nord des informations sur ses ressortissants enlevés. Mais alors que tout dialogue entre les deux Corées est rompu depuis l'essai nucléaire de janvier, la question des enlèvements reste dans les limbes.
Enquête à Séoul de Frédéric Ojardias. La météo demain en France, beaucoup de nuages et de la pluie sur les deux tiers sud du pays.